Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Travelling. Avant toute chose, on s'est rendu compte grâce à vos retours qu'on ne s'était pas présenté, ni nous, ni le podcast, lors de la première. Alors en Travelling, on est juste une équipe de plusieurs gens passionnés par le cinéma. On va parler de ce qui nous passionne ou pas, de ce qu'on aime ou pas. On va débattre, on va parfois se battre, mais on aime tellement ça qu'on a décidé d'en faire un podcast. Aujourd'hui, comme lors de la première, je suis Florian et je suis avec mon collègue Lenny.
Bonsoir, c'est moi.
Et aujourd'hui, on va parler de la filmographie d'un réalisateur français. Roi de l'absurde, mais pas que, c'est parti pour un travelling sur la carrière de Quentin Dupieux.
Allez !
Quentin Dupieux, connu aussi sous le nom de Monsieur Oiseau, idole de la scène électro-française de la fin des années 90, mais aussi cinéaste français majeur depuis presque 15 ans, qui a fait tourner Eric Hermesy, Jean Dujardin, Benoît Poulvorde et En Pneu. On y reviendra. Spécialiste des films high concept, on peut dire ça, Lenny ?
On peut dire ça, oui.
Et il commence en 2001 avec un moyen métrage qui s'appelle Non Film.
Qui est disponible gratuitement d'ailleurs sur internet.
Ouais, Non Film disponible gratuitement, 50 minutes. C'est un peu compliqué de parler de Non Film. Moi je l'ai revu 2-3 jours avant d'enregistrer. Dans les rôles principaux, c'est Kavinsky et Sébastien Tellier. Qui joue des gens. C'est compliqué de parler de non-film. Je vais te laisser enchaîner, je te laisse la responsabilité.
Tu me laisses la responsabilité de parler de non-film, du coup, entre autres. Bah non, en vrai, je pense qu'il faut remettre en contexte non-film déjà. Quentin Dupieux, à ce moment-là, il était vraiment au top, on va dire, à son prime au niveau de la musique, avec Headbanger, avec FCOM, ces deux labels sur lesquels il a travaillé pendant les années 90, comme tu l'as si bien dit. Et un truc que j'ai pu lire par rapport à ça, c'est qu'il en avait un peu marre de faire de la musique, qu'il avait beaucoup beaucoup d'argent par rapport à sa réussite musicale et que du coup il voulait se mettre un peu à la réal, quoi. Et du coup il s'est dit bah que faire de mon argent, je vais réaliser un film et lui sa conception du cinéma c'était ça, c'était quelque chose de spontané. Comme on peut le voir dans le film, il n'y avait pas vraiment de...
Ouais, spontané, ouais, c'est bien.
Il n'y a rien d'écrit, il a pris ça... et son couteau, et il est parti filmer avec deux de ses amis, du coup, avec qui il travaillait dans la musique, comme tu l'as dit, Sébastien Tellier et Kavinsky. Mais après, ouais, c'est vrai que Non Film, moi, la première fois que je l'ai vu, le film m'a vraiment beaucoup surpris, comme pour tout le monde, je pense. Il y a une grosse surprise par rapport au film, il y a une grosse... tu regardes le film, tu comprends rien. Et la deuxième... Enfin, je l'ai revu, du coup, pour ce podcast aujourd'hui. Et c'est vrai que le deuxième visionnage, voire même le troisième, est un peu plus pénible parce que t'as perdu un peu l'innocence et le fait de découvrir un ovni et tu te dis bah en fait c'est un peu chiant, quoi.
En fait on en a parlé effectivement toi et moi ce week-end avant d'enregistrer. On s'est tous les deux mis d'accord sur l'utilisation du mot pénible. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi comme toi la première fois que je l'ai vu j'étais dans la découverte d'un objet arty, d'un objet underground, par un artiste underground qui avait, dans la musique, avait réussi à faire un hit qu'il avait fait passer du monde underground au grand public. C'était un peu le retour de Quentin Dupieux à l'underground non-film. Après, moi, je l'ai vu bien après 2001, bien sûr, mais je l'ai découvert quand même comme ça, comme un objet un petit peu, un espèce de graal cinématographique quand on commence à être cinéphile, on commençait à parler de non-film à un moment donné.
Ouais, c'est sûr.
Passer cette découverte en mode je suis un mec hyper arty, je suis cinéphile, j'ai vu non-film, j'ai kiffé la proposition décalée. Aujourd'hui, c'est dur de regarder non-film. Dupieux le dit lui-même sur le site où tu peux voir Non-Film en gratuit. Dupieux a écrit « Non-Film est irregardable. Non-Film est mon premier essai de faire un film et c'est un échec. » Après, est-ce que Dupieux le pense vraiment ou est-ce que Dupieux fait du Dupieux en disant ça, voilà. En tout cas, moi, je trouve Non-Film pénible.
Mais déjà, pour remettre un peu en contexte, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément vu Non-Film.
C'est vrai.
C'est un film qu'il faut aller voir, qu'il faut voir.
Ouais.
Pour en parler, parce que c'est vraiment particulier. C'est quelque chose... Enfin, moi, perso, je le compare à rien d'autre, ce film-là, étant donné qu'il est tellement particulier qu'il n'est pas vraiment comparable. On est dans le super méta du... la mise en abîme extrême. Vraiment l'extrême de la mise en abîme. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, moi, dans le cinéma, la mise en abîme, parce que ça fait participer plus qu'uniquement les acteurs qui sont dans le film. T'as plus de quatrième mur, c'est cassé complètement et c'est démoli. T'as là, le public, qui est d'ailleurs un thème récurrent dans les films de Quentin Dupieux, son rapport avec le public, qui est assez particulier. On en reparlera dans les autres films qu'on va aborder. Mais ouais, enfin, comme tu le dis, le premier visionnage de ce film-là, c'est assez incroyable. T'en sors, t'as le cerveau à l'envers, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder, quoi ? Qu'est-ce que je viens de regarder ? Et c'est bien, en vrai, parce que on est en 2001, c'est un espèce de... C'est une personne qui enfonce des portes avec des postulats qui n'ont pas été faits, surtout dans le cinéma français. Moi, Quentin Dupieux, quand j'ai fait mes études de cinéma, j'en ai un peu abordé avec des collègues de la fac et des profs. C'était surtout des choses qui étaient mises en relation avec le nouveau cinéma, la nouvelle vague française. Et c'est complètement ça, en fait. C'est une espèce de nouvelle vague 2.0 où on casse tous les codes, on tourne en extérieur, on tourne avec du matos qui n'est pas nécessairement fait pour le cinéma à la base.
Mais ce qui continuera à faire toute sa carrière d'ailleurs.
Ouais, carrément.
Mais en même temps, là où je trouve que Non-Film reste quand même intéressant, c'est que Non-Film, quand tu le regardes après avoir vu tous les autres films de Dupieux, tu te rends compte que dans Non-Film, il n'y a pas la construction que peuvent avoir ces autres films, il n'y a pas, la structure que peuvent avoir ces autres films. Par contre, dans Non-Film, tu as déjà tout.
Ouais, Non-Film.
T'as déjà tout. Et ça, c'est quand même hyper intéressant aujourd'hui de regarder Non-Film.
C'est sûr.
Après tout le reste,
c'est sûr.
C'est que tu vois qu'il y a tout Dupieux dedans, mais c'est Dupieux ou plus.
C'est l'essence de
Dupieux. C'est l'essence la plus pure de Dupieux.
Carrément, je suis d'accord. Mais c'est ça qui est bien, je trouve. Parce que, en fait, tu regardes tout. Le fait de tout regarder et après de regarder Non-Film, c'est vrai que tu te dis, tout est dans Non-Film déjà, en fait. Et le truc qui est encore plus cool, c'est que tout ça, il l'a fait sur le. Enfin. C'était pas préparé, limite, quoi. Il avait ses idées, il avait ses idées préconçues du cinéma, et du coup, il avait, lui, ce qu'il voulait faire par rapport au cinéma, et il l'a réalisé vraiment, je sais pas, tu sais en combien de temps il a réalisé dans le film ?
Aucune idée, non.
Mais je sais qu'il y avait rien de préparé, quoi. Ils étaient là, ils ont filmé, et puis ils se sont dit, ça se passait comme ça, et ça se passe comme ça, quoi. C'était un peu de l'improvisation, quoi, mais...
Et le résultat, du coup, c'est Non-Film, disponible gratuitement sur Internet, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. La meilleure chose à faire, je pense, que c'est d'aller le voir. Et au final, je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, que ce soit le film sur lequel on passe le plus de temps, en vrai.
En vrai, il est inanalysable, le film.
C'est ça, bien sûr.
C'est impossible de sortir quoi que ce soit du film en termes vraiment d'analyse filmique poussée, quoi. Du coup, ouais, c'est juste les débuts, la genèse de Quentin Dupieux, quoi, en vrai.
Et du coup, Non-Film en 2001, et 6 ans plus tard, le premier long-métrage de Quentin Dupieux, illustré par cette musique. Avec Eric Ramsey, Jonathan Lambert, il y a aussi Sébastien Tellier Kavinsky, encore une fois.
Les amis d'Ed Banger.
Steak, on va y passer du temps, je pense. Ouais. Sur Steak, on va y passer 2-3 minutes.
Et cette musique-là, combien de temps, c'était quoi du coup ?
La musique, c'était Sketch Steak,
okay.
De Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux lui-même. Est-ce qu'on peut commencer par un truc simple ? C'est de quoi ça parle, Steak ?
De quoi ça parle, Steak ? Alors, Steak, c'est quoi ? C'est De quoi ça parle steak? Ça, c'est compliqué en vrai. C'est pas si compliqué. En vrai, steak, on va dire, c'est parmi la filmographie de Dupieux, c'est on va dire celui qui est le plus structuré comme un film basique.
Je suis pas d'accord avec toi, mais.
D'accord. Mais du coup, steak, ça parle de quoi? Ça parle de. Ça se passe dans quelle époque? Il n'y a pas vraiment d'époque définie.
De toute façon, il n'y a jamais vraiment d'époque. Trop d'époque chez Quentin Dupieux. C'est un des trucs que j'avais abordé, notamment au moment du Dain, qui sera le dernier film qu'on abordera.
Il n'y a jamais vraiment d'époque, c'est vrai.
Mais c'est que tous les films de Quentin Dupieux sont très actuels, mais très anachroniques en même temps. Et c'est un peu déroutant parfois si t'es c'est pas vrai. Prêt à accepter c'est ce vrai. Postulat de départ.
Parce qu'en soi, le steak, dans ce qu'on voit à l'image, on pourrait dire que ça se passe dans les années 80, on va dire, mais en fait, on sait pas. Du coup, steak, c'est quoi? C'est deux amis, Eric et Ramzy, dont j'ai oublié les noms des personnages d'ailleurs, mais bref, c'est pas très grave. Eric, qui était en prison pendant un certain nombre de temps, qui revient du coup après d'avoir purgé sa peine, il retrouve son ami Ramzy qui vient le chercher en dehors de la prison et il trouve que son visage a changé. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est parce qu'en fait il a fait de la chirurgie esthétique pour pouvoir intégrer un espèce de groupe de gens cool qui s'appelle les Cheevers, qui sont on va dire les meneurs en gros un peu bad boys de leur lycée, collège, enfin je sais pas trop dans quel
établissement.
Qui boivent du lait, ils boivent beaucoup de lait, et qui portent tous un très beau manteau type Teddy américain de collège rouge.
Avec Chivers. Marqué Chivers derrière, avec... et le premier lettre du prénom.
C'est ça.
De la personne. D'ailleurs, petit message, si quelqu'un a un manteau Chivers avec un F dessus, je lui achète même si c'est 1500 euros, clairement.
De ouf. Peut-être même 7500 euros comme un autre manteau qu'on parlera peut-être plus tard. Du coup, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, Rick se retrouve jeté de tout ce petit groupe. De Ramzy et de ses potes Shivers, du coup joué par Kavinsky, Sébastien Tellier et tout.
Jonathan Lambert.
Et du coup, il fait tout pour retrouver ses potes et du coup s'intégrer dans ce nouveau univers et cette nouvelle société qui est les Shivers et qui est le monde dans lequel il vit. En gros, c'est ça, le postulat de départ sur Steak.
Et je tiens à dire que dans Steak se trouve une de mes répliques de cinéma préférées. Où Sébastien Tellier essaye de voler une voiture. Il y a un autre personnage, je ne sais plus lequel, qui est assis sur la voiture. Sébastien Tellier, donc, du coup, met sa tête au niveau des genoux de la personne pour essayer de travailler les fils de la voiture pour la voler. Les flics arrivent et disent « Mais vous faites quoi, monsieur ?» Et Sébastien Tellier lui répond « Oh non, vous inquiétez pas, je suis juste en train de faire une fellation à ce monsieur.
» C'est vrai, j'avais oublié.
Et ça peut me tuer de rire.
J'avais oublié cette réplique, pendant que tu l'as racontée, elle m'est revenue. C'est vrai que c'est incroyable. Mais Steak, Steak, c'est quoi? C'est 2007, du coup, comme t'as pu
2007,
dire.
2007, ouais.
Film qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe sur le cinéma français.
En fait, le film, il débarque à un moment où Eric et Ramzy sont au top.
C'est ça. Et les gens vont voir Steak pour voir du coup une comédie de Eric et Ramzy.
Et voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'on est en plein Eric et Ramzy mania. La Tour Palace Infernal est sortie en 2001. Seul tout, ça, juste après Steak. Il y a eu Double Zéro, il y a eu les Dalton qui ont bidé, mais à ce moment-là, comme les films ont bidé, Eric et Ramzy remontent sur scène. Le spectacle est déjà super drôle. Il s'appelle Eric et Ramzy en un seul mot. Le spectacle est charmé et la cote de popularité d'Eric et Ramzy remonte d'un coup. Grâce à ce spectacle incroyable. Et là, du coup, ils se mettent d'accord avec Quentin Dupieux pour faire ce film qui s'appelle Steak. Et alors, moi, je le dis tout de suite, j'adore Steak. J'adore ce film que je trouve vraiment incroyable, à la fois profondément Quentin Dupiesque, mais en même temps profond, avec un amour profond pour tout ce qu'on peut proposer Eric et Ramzy, je pense. Moi, quand j'ai découvert ce film, du coup, j'avais 14 ans, j'ai découvert au moment où il est sorti. J'étais fan d'Eric et Ramzy, c'est pour ça que je me suis dirigé vers Steak. Et là, je vais parler du vrai problème du film, qui a été au final sa campagne de com.
Sa communication, clairement.
Sa campagne de com, parce qu'en fait, Steak, il a été vendu comme la nouvelle comédie d'Eric et Ramzy.
C'est ça. Et c'était pas bon.
Et c'est pas du tout ça, en fait.
Après, je peux le comprendre qu'ils aient fait ça, parce que Quentin Dupieux, à ce moment-là, il avait fait que non-film. Et lui, quand même, il voulait faire un peu de thune avec son film, sûrement. Et du coup, il voulait utiliser ça aussi. Après, c'est mal fait parce que les gens s'attendaient à voir un film comme les Dalton, comme Double Zéro, et au final, c'est pas ça parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça.
En fait, c'est Sébastien Tellier qui l'a dit lui-même, dans une interview il y a pas longtemps d'ailleurs. Il a dit le vrai problème de Steak, c'est que ça a été vendu comme une comédie familiale alors que c'est un pur film d'auteur.
Ouais. Mais c'est pas vraiment un pur film d'auteur parce que en fait, c'est un mélange des deux. Je trouve que ça réconcilie les deux justement, tu vois.
Alors moi, je trouve qu'on, enfin, on y viendra hein, quand on parlera du Dain, mais moi, je trouve que le Dain est un film qui réconcilie l'univers de Dupieux à un univers plus formel, qui va être le film de genre, le film d'horreur. Mais je trouve que du coup, dans le Dain, les deux se réunissent vraiment là où je trouve que vraiment Steck est beaucoup trop absurde pour être accepté entre guillemets par tout le monde. Steck, c'est vraiment et encore Ramsey, je le mets un peu en dehors de ça. Pour moi, Steck, c'est vraiment l'union parfaite entre Quentin Dupieux et Eric Judor.
Eric Judor, ah, de ouf. Eric Judor, incroyable.
Il y a des moments dans ce film, outre tous les moments super drôles, il y a des moments d'une poésie incroyable. Il y a des moments d'une poésie incroyable. Et en même temps, je pense que Eric Judor s'est aussi beaucoup beaucoup nourri de Quentin Dupieux. Mm. Aujourd'hui, sa série Platane n'aurait jamais, je pense, jamais existé, ou en tout cas pas sous cette forme-là.
C'est vrai que
sans Steck et sans sa rencontre avec Quentin Dupieux.
C'est vrai que Platane reprend un peu les codes de Quentin Dupieux dans de l'absurde, dans l'humour noir un peu
ouais,
un peu bizarre. Mais ouais, non, je suis d'accord. Mais après, je trouve ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il a réussi vraiment à respecter l'humour de Eric et Ramsey, parce que malgré tout, on retrouve ce qu'ils font dans d'autres films, Eric et Ramsey, dans Steck. Et c'est bien, enfin, moi je retrouve du Ramsey, et du... non, surtout du Eric en fait, je retrouve du Eric de H, tu vois, genre dans Steck, et ça me fait plaisir en fait de voir tout ça, et d'avoir un film qui va plus loin que la comédie familiale classique, que, comme il a été bah, communiqué, et c'est ça qui a fait que le film bah, a eu vraiment deux critiques différentes, dont enfin, beaucoup de mauvaises quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ouais, le film a été très très mal accueilli quoi.
Je suis d'accord, mais c'est parce que le film a été mal marketé, parce qu'au final les gens n'étaient pas prêts. Mm. Les gens n'étaient pas prêts pour regarder Steck, et Steck s'est fait défoncer aussi par la critique spécialisée au moment où il est sorti, et c'est maintenant 10 ans plus tard que Steck est devenu un objet culte. Mais je pense vraiment que les gens n'étaient pas prêts, et je pense aussi que même sur la carrière cinématographique d'Eric et Ramsey. Seul tout, du coup, qui vient juste après Steck, tu vois quand même une grosse cassure entre les Dalton 00 et Seul tout. Mmh. Tu sens qu'il y a eu qu'il y a un truc qui s'est passé.
Ouais.
Et c'est pour ça que je dis que je pense que Quentin Dupieux a eu un énorme c'est effet un bon sur Eric Judor et sur Ramsey. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de passion pour Steck, qui est du coup, moi, le premier Dupieux que j'ai vu en termes de temporalité.
Moi aussi.
Et j'aime ce film profondément. J'ai une tendresse, une affection pour ce film qui ne faiblit pas avec le temps. Voilà.
Non, c'est vrai. Non, mais moi non plus. Enfin, ce film-là, j'ai découvert. C'est mon premier Dupieux que j'ai découvert aussi. Après, j'ai vu mon film, du coup. Et pareil. Enfin, c'est vrai que quand on m'a vendu le film, moi, mais c'est des amis qui m'en ont parlé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours négatifs. Et après l'avoir vu et après l'avoir vu plusieurs fois, pour le coup, parce que la première fois, c'est vrai que en le voyant une première fois, tu peux avoir une première lecture en disant mais en fait ce que je viens de voir là c'était un peu léger, c'était un peu limite, c'est un peu vraiment la comédie commerciale classique quoi. Mais en fait quand tu le regardes une deuxième fois que t'as un peu plus de profondeur dans la lecture, tu vois qu'il y a vraiment une critique qui est faite profondément sur la société de consommation, l'obsession du paraître chez l'homme, sur l'aliénation d'autrui.
C'est dur à dire.
C'est vrai que c'est dur à dire. Sur l'aliénation d'autrui, enfin c'est un... De toute façon, malgré le fait que le cinéma de Quentin Dupieux qui est absurde, il aborde des thèmes qui sont vachement vrais, qui sont vachement portés vers la société. On le verra de toute façon dans ses autres films, il parle de lui, il parle de son public. Il parle de thèmes actuels, et Steck c'est complètement dedans en fait. Pour moi Steck c'est complètement dedans, et c'est bien.
Et du coup on part en Californie 3 ans plus tard pour le premier film en langue anglaise de Quentin Dupieux, Rubber.
Troisième film de Quentin Dupieux.
Effectivement, troisième film de Quentin Dupieux. D'ailleurs, j'ai dit on part en Californie, mais on était déjà en Californie avec Steck, d'ailleurs. Mais,
on était déjà même en Californie avec ton film.
C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, du coup, c'est quand même le premier film en langue anglaise de Quentin Dupieux. On est avec Roxane Mesquida, avec Steven Spinella, et dans le rôle principal...
Un pneu.
Le pneu est nommé dans le générique du film.
Il s'appelle Robert.
Robert le pneu. Donc voilà, un pneu en rôle principal d'un film. Donc on dit depuis tout à l'heure que Quentin Dupieux, c'est l'absurde. Là, on est carrément dans
l'absurde.
Dans le non-sens. C'est d'ailleurs un truc qui va revenir, c'est très intéressant. Déjà, de quoi ça parle, Lenny Robert?
Alors Robert, c'est quoi? C'est pour commencer le pitch vraiment avec le début de Robert. Robert, c'est des gens qui regardent un film en extérieur. Ils regardent pas vraiment un film en fait, ils regardent des scènes qui se passent vraiment et ils suivent du coup l'aventure de Robert, enfin de Robert du coup.
Robert le pneu.
Ce pneu qui est un pneu tueur. Il découvre en écrasant. Tantôt un lapin, tantôt une bouteille en verre, tantôt en faisant exploser une tête, il a des pouvoirs du coup télékinétiques qui peuvent faire exploser des têtes, et du coup il tue des gens.
Voilà, bienvenue dans le cinéma de Quentin Dupieux. Voilà. S'il y a des gens qui se sont dit tiens, ça va être une émission de cinéma sympa, on va parler de films simples, etc. Désolé de vous décevoir.
Désolé, hein.
Donc encore un film high concept, hein, donc du coup un pneu serial killer.
Encore une grosse mise en abîme encore une fois parce, ouais. parce que dès le début on voit un policier qui arrive et qui parle à la caméra et qui nous parle à nous en fait et qui dit ben ce policier là il dit quoi, il dit est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi il cite des faits de film, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi E.T. est marron, ben il y a pas de raison, et il dit plusieurs environ 5 ou 6 faits comme ça en disant vraiment que ce qui se passe dans le cinéma en fait, bah, il est fait sans raison en fait, il est fait parce que l'auteur veut le faire, et point. Et du coup, c'est un peu la justification de pourquoi le pneu il tue les gens. Bah, il n'y a pas de raison, parce qu'il tue des gens. Et du coup, en fait, ce policier au début il nous parle à nous, mais il parle en fait à un public qui est là, il y a environ une vingtaine de personnes à qui on donne des jumelles et qui doivent suivre du coup l'aventure du pneu. Et c'est ces spectateurs-là en fait du film, du coup, la mise en abîme est faite à ce niveau-là. Et c'est une chose que Quentin Dupieux fait vraiment très bien et le fait dans beaucoup de films, comme on a pu le dire au début quand on a présenté du coup l'auteur. Ouais, grosse mise en abîme du coup.
Et t'aimes bien Robert ?
J'aime bien Robert. J'aime bien Robert. Ouais, j'aime bien Robert en vrai. C'est pas mon film préféré de Quentin Dupieux, mais du fait qu'on suive un pneu tueur quand même, si t'es sensible à Dupieux, tu ne peux qu'aimer en fait Robert. Parce que malgré tout, c'est super bien fait. C'est le film est beau en soi. Il est tourné dans le désert. Il est tourné dans
magnifique même.
Ouais, il y a des beaux plans, il y a des belles scènes. On se trouve à être empathique d'un objet, enfin un objet complètement un pneu quoi. Et c'est fort je trouve parce que vraiment on s'attache à des personnages, on s'attache à des choses et on est pris dedans quoi, clairement quoi.
De toute façon, je vais pas te contredire, mais j'adore Robert. Pour le coup, moi, c'est un de mes Dupieux préférés. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est le mot que tu as utilisé, c'est le mot du non-sens. Pour moi, c'est totalement ça, Robert. C'est l'absence totale de tout, mais le manque de rien, pour moi, en tant que spectateur, en tout cas. C'est l'absence totale de tout, c'est l'absence totale de cohérence, c'est l'absence totale de narration, c'est l'absence totale de tout. Mais j'ai jamais manqué de rien dans ce film. À chaque minute, à chaque seconde de ce film, j'étais abasourdi. Mais en même temps, pourquoi je dis que le non-sens c'est important ? Parce que, pour faire référence au non-film qu'on a vu en premier, le premier moyen-métrage de Dupieux, il y a une filiation très nette entre les deux films.
Clairement, déjà on s'y retrouve par rapport au décor.
Clairement,
c'est le même endroit, limite.
Et c'est assumé par Dupieux qui considère Robert comme le grand frère abouti et réussi de non-film. Donc voilà, mais. C'est exactement ça. Pour moi, Robert, c'est non-film réussi. C'est non-film avec une structure, c'est non-film avec plus de moyens. En vrai, oui, mais pas tant que ça. Parce qu'en vrai, il a tourné avec deux Canon 5D. Le tournage a duré 14 jours, donc c'est pas non plus Avatar. Mais...
C'est surtout non-film avec plus de. On va dire.
D'expérience.
D'expérience, c'est ça. Il a plus mûri dans du coup le cinéma quand on a vu. Et bah, il a tourné un vrai film. Avec Steck.
Ouais.
Et du coup, là, il voulait retourner un peu dans ses débuts et aboutir à mon film, du coup. Et clairement, c'est mon film, c'est. Bah, toi, tu m'avais dit, on en a parlé un peu avant, et tu m'avais dit, du coup, l'inverse de ce que tu viens de dire, que Nonfilm était le petit frère handicapé de Robert.
Oui, c'est ça.
Ce que je trouve aussi marrant. Mais ouais, c'est carrément. Enfin, Nonfilm et Robert, c'est deux films qui peuvent être classés sous les mêmes registres.
Alors, c'est Dupieux qui considère Nonfilm comme le petit frère handicapé de Robert, ouais. Mot pour mot ça. Et c'est moi qui ai reformulé pour dire que Robert était le grand frère réussi.
Ouais.
Mais important.
Tu voulais être un peu plus soft, quoi.
Ou je voulais surtout pas m'approprier les mots de Quentin Dupieux.
C'est vrai.
Robert qui a été, pour la première fois, chez Quentin Dupieux, présenté au Festival des Cannes. Robert présenté la semaine de la critique. Bon, il a pas eu grand-chose, mais c'est quand même... Quand t'es un réalisateur, tu réalises ton troisième film, ton deuxième long-métrage, tu te dis, dès mon deuxième long-métrage, je suis présenté la semaine de la critique à Cannes, ça assoit Quentin Dupieux dans un truc de...
Carrément.
C'est, entre guillemets, un vrai réalisateur.
Avec un vrai genre.
Avec un vrai genre. Et ça, c'est... Mais c'est intéressant, d'ailleurs, parce que je trouve que alors, la comparaison en termes de contenu, en termes de type de film, n'a rien à voir, mais Quentin Dupieux, je pense qu'à la manière d'un Wes Anderson.
Ouais.
Quand tu vois un film de Wes Anderson, tu sais que tu regardes un film de Wes Anderson, ouais. Si tu sais pas, mais si ouais. T'arrives à bout d'une heure de film, tu sais très bien que tu regardes un film de Wes Anderson.
Ouais, carrément.
Un film de Quentin Dupieux, c'est pareil, de par
David
les
Lynch,
plans
genre, par exemple,
ou ça. David Lynch. Ouais. Mais Quentin Dupieux, de par les plans, de par l'ambiance, si j'arrive au bout d'une heure de film, que j'arrive, je sais pas ce qui est en train de se passer, je regarde là, au bout de deux minutes, je sais que c'est un film de Quentin Dupieux.
Ouais, c'est clair.
Et ça, c'est très important dans un réalisateur de savoir d'avoir une patte. Comme ça, c'est hyper important.
Ouais, c'est clair.
Et ouais, et Robert pour moi est un film extrêmement réussi sur ce point-là. Je sais que toi t'es un peu plus mesuré que moi, que tu l'aimes pas autant que moi, mais moi j'adore Robert, que je trouve aussi sur ce qu'il dit de nous en tant que spectateur.
J'allais en venir justement par rapport
hyper
à
intéressant. Ouais,
la critique qu'il fait du spectateur. Je pense que cette critique-là, elle vient sur Rubber, qui est le film qui suit du coup Steak, qui a une critique mais très 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 mitigée et du coup des retours assez, on va dire, mécontents des spectateurs. Et en fait, je pense que toute la partie du coup de mise en abîme et la partie du coup spectateur qui est dans le film Rubber, je pense que c'est un espèce de va te faire foutre. De Quentin Dupieux au spectateur, parce qu'en fait,
un peu de ça.
Pour resituer un peu le contexte dans le film, les spectateurs qui sont dans mon film se font tuer par les personnages du film, en fait.
Ouais.
Ils sont empoisonnés, ils sont maltraités de base, ils mangent pas pendant 3 jours, au bout de 3 jours ils se font servir un poulet qui est empoisonné. Et en gros ils meurent tous un par un. Et je pense que ça, c'est un peu la métaphore de Quentin Dupieux qui dit vraiment, on va te faire foutre au spectateur, et dit c'est moi qui fais mes films. Si vous n'êtes pas content avec ce que je fais, je m'en fous, en fait. Je continuerai à faire ce que je fais et c'est mon film. Et dans tous les cas, en fait, il trouve son public et il réveille sûrement chez des personnes qui n'ont pas forcément cette envergure de cinéma-là des passions et sûrement des joies. Parce que c'est des films qui fonctionnent. Et Robert, comme t'as pu le dire, il était présenté à Cannes. Et s'il est présenté à Cannes dans la quinzaine, c'est qu'il plaisait, quoi.
C'est qu'il plaisait. Après, Robert n'a pas fait d'entrée en salle. Moi, à l'époque, en 2010, quand il sort, du coup, j'ai 17 ans. J'ai pas moyen de voir Robert en salle avant un an plus tard. Qui passe sur on va faire un peu de la pub, mais qui passe sur Canal. Je le vois pas avant parce que hyper mal distribué, malgré Steak, malgré Semaine de la Critique à Cannes, hyper mal distribué.
Il y a
et...
pas une communication particulière sur Rubber en soi.
Non, Rubber, on en a parlé pendant 3 jours à Cannes. À l'époque, je me souviens très bien, on en avait parlé pendant 3 jours à Cannes. Après, tout le monde voulait le voir. Après, il était distribué dans 3 salles et puis personne l'a vu. Tout le monde l'a vu après en DVD, en Blu-ray, à la télé, mais. Ouais. En tout cas, de mes souvenirs, mais après mes souvenirs sont peut-être très erronés, hein, mais mes souvenirs de spectateurs sont j'avais envie de voir Robert et j'ai pas pu le voir avant qu'il passe sur Canal. Ça prouve aussi peut-être un truc dont on parlera un jour sur Travelling, en tout cas moi ça m'intéresse, mais il faudrait qu'on parle un jour des distributeurs français, ça risque d'être sympa.
Tu l'as en DVD toi, Robert?
Je ne l'ai pas en DVD. Si un jour quelqu'un veut m'offrir Robert en Blu-ray, je suis très preneur.
C'est voilà. Bientôt Noël, c'est un petit message à faire passer.
Oui, je fais passer le message. Si vous avez Robert en Blu-ray et que vous voulez vous en débarrasser, ou si vous ne l'avez pas et que vous voulez l'acheter à quelqu'un, ce quelqu'un peut être moi, je suis disponible. Du coup, on va passer au prochain. Alors, si vous ne l'avez pas compris jusque-là, Lenny et moi, on aime plutôt beaucoup Quentin Dupieux.
Ouais.
Moi, on rentre dans la période de Quentin Dupieux que j'aime moins. Et ça commence dès 2012 avec Wrong.
What are you talking about? What? Unbelievable. That's why I wanted to show you.
How?
20 years of gardening. I've never seen this in my whole life. I can't get over it.
Donc voilà, Wrong, en 20 ans de jardinage, j'ai jamais vu ça.
Jamais vu ça.
C'est quand même le meilleur clin d'œil possible. Eric qui ressort une phrase de H en anglais dans un Dupieux.
Ah, c'est la blague typique de H, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Eric Judor, mais dans H, il a fait 20 ans de tout et il n'a jamais vu ça. Du coup, là, c'est vraiment le gros clin d'œil et le respect que montre Quentin Dupieux à Eric Judor, je trouve, comme on a pu le dire tout à l'heure avec Steak.
Ouais, mais d'ailleurs, ça prouve bien que. Ça prouve bien l'admiration qu'ils ont l'un pour l'autre. Je pense que Eric Judor a beaucoup de respect et d'admiration pour Dupieux, et je pense que l'inverse, ouais, c'est vrai. Ouais, l'inverse est vrai aussi.
Mais du coup, Wrong, un film qui est sorti en
2012,
quatrième film du coup de Quentin Dupieux, qui enchaîne, hein, malgré tout, avec Eric Judor dans le rôle d'un jardinier.
Ouais.
Eric, comment il s'appelle, Poltnick,
là, Jack Poltnick.
Jack Poltnick. Du coup, rôle principal, on va faire un petit pitch. Du coup, c'est Jack Poltnick, Dolph Springer dans le film, qui perd son chien.
Voilà, fin du pitch.
Fin du pitch.
Donc, Dolph Springer perd son chien. Et où est passé le chien?
Il se réveille un matin, il n'y a plus de chien.
C'est quand même fou, ça.
Il va voir son voisin, qui lui demande de s'approcher vraiment proche de lui pour parler. Et où est son chien? Il ne sait pas. Et du coup, où est son chien?
Et puis pendant ce temps-là, il y a son jardinier, je parle avec Judor, qui lui dit qu'il y a un problème avec son palmier. Parce qu'effectivement, le palmier qu'il y a dans le jardin s'est transformé en sapin.
Il s'est transformé en sapin, ouais. Et du coup, il lui donne pour mission de régler ce problème. Chose qu'il fait. Puis il meurt, avec Judor, paix à son âme. Mais après, il revient quelques minutes après.
C'est fou.
Par magie, c'est fou, on sait pas pourquoi, et on s'en fout en vrai, il n'y a pas de raison. Comme dans d'autres films de Quentin Dupieux. Mais en gros, c'est ça, hein. Enfin, Blanc, c'est. On suit du coup ce Dolph Springer qui retourne au travail alors qu'il s'est fait virer 3 semaines avant. Il va au bureau parce qu'il aime ça, il fait semblant de travailler. Le bureau d'ailleurs, il pleut.
Il pleut dans le bureau.
Il pleut dans le bureau.
Ce qui voilà, mais après, moi, ça, pour commencer à donner un avis, moi, c'est un peu ça qui commence à me gêner là. C'est pour ça que je dis, on rentre dans la période que j'aime moins chez Dupieux. C'est que là, on commence, sur celui-là, sur celui d'après, on commence à vouloir faire du Dupieux. C'est que Dupieux veut faire du Dupieux. Et il s'applique surtout à être le plus absurde possible. Et plus à faire ce qu'il fait marrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens.
Pas moi. En tout cas, pas sur Wrong. Sur Wrong, enfin, je suis d'accord. Non, en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Sur Wrong, c'est vrai que le film est tellement absurde et tellement fait preuve de non-sens total qu'on s'y perd, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'il force un peu trop, en fait.
Mais il force ça. Moi, il y a des fulgurances, il y a des trucs qui me font rire. Genre le réveil qui est à 7h59, au lieu de passer à 8h, il passe à 7h60. 60,
ouais.
Ça, je suis OK avec ça. Toutes les répliques et les scènes d'Eric Judor avec le sapin, etc. Eric qui prend exprès de prendre un accent anglais à couper au couteau, qui parle très bien anglais. Et toutes ces répliques, elles sont, il y a pas de problème. Le personnage de William Fichtner, donc Master Chang.
Ouais.
Moi, tendance à plutôt me faire rire. Toi, je sais que tu l'aimes pas du tout.
Non, si, je l'aime bien.
Ah, tu l'aimes bien. Pardon, j'avais pas compris. Mais et par exemple, le coup, alors pour parler de ça, le coup de la pluie. Il pleut, il fait toujours beau à l'extérieur, et il pleut dans son bureau.
Mm-hmm.
Ça, typiquement, pour moi, c'est l'exemple de. Il a dû tourner, il a écrit la scène, il s'est dit « Ah, il manque un truc. Ah ouais, la pluie à l'intérieur. » Et je sais pas, moi, tu vois, on atteint presque le trop, là, pour moi.
Ça crée... Moi, les scènes de pluie dans le bureau, je les ai... À chaque fois qu'il était dans son bureau et qu'il pleuvait, j'étais anxieux, en fait. Et c'est ça, le truc, en fait, avec Long, c'est qu'on commence à rentrer dans du plus anxiogène. Et ça me plaît, moi, perso. Moi, perso, ça me plaît. Parce que...
En fait, c'est une question de perception, parce que moi, je trouve Rubber beaucoup plus anxiogène que Wrong, et je préfère 10 000 fois Rubber à Wrong. Donc, c'est, en fait, ce que tu ressens, moi, je l'ai ressenti avant, et moi aussi, j'adore ça, mais je ne l'ai pas ressenti sur celui-là.
Tu t'es senti plus anxieux, enfin, tu as senti Rubber plus anxiogène que Wrong, du coup.
Employons les mots qu'il faut. Moi, Rubber, j'étais anxieux, j'avais les mains moites, je ne savais pas trop. Moi, Wrong, je me suis fait chier.
Ah ouais? Moi, c'est... Enfin, je me suis pas fait chier sur Rubber du tout, mais je trouve que Rubber est beaucoup plus fondé sur un squelette genre classique. On suit un antagoniste qui tue des gens et qui évolue sur sur une chronologie, genre on va de A à Z à la fin, alors que Blong est beaucoup plus mêlé et beaucoup plus genre absurde en fait. Il y a des choses qui font pas de sens. Eric Judor qui meurt et qui revient 20 secondes après, on sait pas pourquoi. Son voisin qui lui demande de se rapprocher pour parler alors qu'il est en face de lui de base au début du film, on sait pas pourquoi.
On sait pourquoi.
Non, on sait pas pourquoi il demande de rapprocher. Pourquoi ?
La télékinésie.
Non, mais au tout début, il n'y a pas encore la télékinésie.
Bah si, Master Chong lui parle par rapport
non, à... Non, mais au tout début, il n'y a pas ça. La première scène du film, en gros, il sort de chez lui, il est en pantoufle. Il dit, ouais, il est où Paul, mon chien ? Il voit son voisin en face qui fait ses valises et qui va pour se barrer.
Pour moi, on n'a pas compris. On a juste pas compris la même chose. Mais pour moi, après coup, cette scène hyper malaisante, pour moi, c'est Master Chong. C'est le premier acte de télékinésie de Master Chong qui lui parle à travers ce personnage-là.
Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. J'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que ça pourrait être là. D'ailleurs, ce personnage du voisin qui est vraiment, vraiment le summum de l'anxiogène, pourquoi il lui demande pourquoi il prend le seum alors qu'il lui demande, il lui dit qu'il fait du jogging, tu vois, genre. Mais enfin, bref. Non, en fait, vraiment, vraiment, Blonde, pour moi, je trouve que si on compte pas non-film, si on compte uniquement Steak et Rubber, que c'est le film le plus absurde et le plus, genre, chronologiquement et n'importe quoi qui se passe à l'écran de ce qu'il a fait pour l'instant.
C'est peut-être le plus absurde des trois, mais pour moi, ça reste le moins intéressant pour l'instant.
Ok. Non, moi, je le trouve intéressant, en vrai. Moi, c'est moi, il me plaît.
Après, je dis pas qu'il est inintéressant, je dis que c'est le moins intéressant des trois. Après, Un mauvais du pieu m'intéressera toujours plus que plein d'autres trucs.
Hein. Ouais, non, je suis d'accord.
Mais, je suis pas fou de Wrong. Et on va enchaîner, je suis encore moins fou de celui qui vient là tout de suite.
Je suis encore moins fou de ce qui vient après aussi. Moi, pour moi, celui qui vient après, c'est celui que j'aime le moins. En vrai, parce que c'est pas un dupieux, je trouve. Enfin, en tout cas, on va en parler.
On en parle, on passe à Wrong Cops.
Du coup, Wrong Cops.
Alors, Wrong Cops avec un casting bien particulier, puisqu'on y retrouve Mac Burnham, Eric Judor et Eric Wareheim, comme dans beaucoup de films de Dupieux. Mais on y retrouve aussi Marilyn Manson.
Marilyn Manson, Marilyn Manson, mais pitoyable, sans maquillage, adolescent, prépubère limite. Mais Marilyn Manson, on ne reconnaît pas. Méconnaissable, mais ça marche tellement bien, je trouve. Par contre, Marilyn Manson dans ce film.
Alors en fait, tu veux que je te dise, alors Wrong Cops, on va le pitcher vite fait, et après je vais te dire pourquoi Marilyn Manson ça marche, et pourquoi c'est le seul truc qui marche dans le film, parce qu'il y a une vraie raison pour ça.
Ok.
Donc du coup, Wrong Cops, de quoi ça parle, je te laisse faire le pitch.
Alors Wrong Cops, on suit 4 collègues policiers, d'ailleurs on en a pas vraiment parlé, mais le thème de la police qui est pas mal abordé dans les films de Quentin Dupieux, on voit beaucoup de militaires dans Rubber. On voit aussi de la police un peu dans Steak. Mais bref, du coup, Wrong Cops, c'est 4 policiers, mi-policiers, mi-enfoirés, on va dire. Et chacun d'entre eux, ils ont un peu leur vice. Il y en a un qui est dealer de drogue, il y en a un qui est maître chanteur ultime. L'autre qui est limite harceleur sexuel. Enfin, c'est pas limite, c'est totalement...
Il l'est clairement, mais...
Et le dernier, du coup, qui est Eric Judor, Ruff, qui veut devenir une star de la musique électronique. On retrouve encore le thème de la musique électronique, du coup, hein. Enfin, c'est un peu le berceau de Quentin Dupieux.
C'est clair.
Ce qui est normal qu'on le retrouve dans ces films, du coup. Et du coup, c'est 4 flics, c'est 4 Wrong Cops.
À Miami. Non, c'est 2 flics à Miami, pardon.
C'est pas bon ça. on les suit à travers différentes aventures et mésaventures, jusqu'à la mort de leur collègue, où ils se rassemblent pendant leur funérailles. Il n'y a pas vraiment de plot, en fait, honnêtement.
C'est un peu mon problème avec Wrong Cops. Du coup, je reviens sur la scène avec Marilyn Manson. Pourquoi je suis d'accord avec toi sur le fait que la scène avec Marilyn Manson marche.
Les scènes avec
Marilyn Manson marchent, et que c'est le seul truc qui marche du film. Attention, je sors mes petites notes, car j'ai noté 2-3 petits trucs.
Ah. Les facts.
Les facts. En fait, Wrong Cops n'était pas du tout destiné à être un film. Wrong
c'est
Cops.
C'est vrai, c'était une série.
Non, pas du tout. Wrong Cops, c'était un court-métrage.
Ok.
Wrong Cops, c'était un court-métrage. C'était okay. La scène de Marilyn Manson quand il a dossé sur l'arbre, derrière le grillage. Oui. C'était ce court-métrage-là. Cette scène-là, cet échange entre Marilyn Manson et Mark Burnham. C'était ça, okay. Wrong Cops, au départ. C'était un court-métrage. Et parce qu'il avait kiffé faire ça, il a tourné 5, 6, 7 autres sketchs pour les accoler à ce court-métrage-là pour en faire un long métrage. Et moi, je trouve que ça se ressent de ouf. Parce que du coup, ouais, ça devient une espèce de gloopy bulgare, clairement, un peu mal branlé. Enfin,
c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, parce que je savais que Wrong Cops était aussi disponible en format série. Du coup, il y a 7 épisodes qui sont retrouvables sur OCS, d'ailleurs, je crois.
En fait, c'est après qu'il a fait la série Wrong Cops.
Et ça marche mieux en série, en fait, je pense. Parce que clairement, en fait, si tu pitches Wrong Cops, tu peux vraiment diviser le film en plusieurs péripéties qui se passent et qui sont vraiment séparées, sans lien, en fait. Et en soi, c'est ça le problème fondamental de Wrong Cops, c'est que c'est pas... On retrouve ni l'absurde de Dupieux, si ce n'est le dealer de drogue qui met sa drogue dans des rats. Mais ça, en soi, tu peux le retrouver ailleurs, en fait. Ouais. Tu peux c'est absurde, mais c'est facile. C'est pas absurde réfléchi, et c'est pas absurde, genre, on te perd dans la chronologie comme dans Wrong, on te fait jouer un pneu tueur comme dans Rubber. C'est pas du tout genre des choses qui sont Quentin Dupieux, en fait. C'est vraiment de l'absurde et du facile absurde sur des choses qu'on peut retrouver ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment gênant dans Wrong Cops, c'est que c'est pas, on retrouve pas du tout l'essence de Dupieux, en fait, dans ce film.
Ah ouais, entre alors je sais que sur Wrong, donc du coup on l'a entendu, t'es un peu plus mesuré. Moi, avec Wrong et Wrong Cops, c'est un peu une période où Quentin Dupieux m'a perdu complètement, où je suis un peu sorti du délire. Ça va bien s'arranger avec le prochain.
Gémissement numéro 45.
Are you the old person that lives in this house?
Yes.
Why should I give a shit?
We need to talk. I think we're the same person.
Je suis en train de perdre les pédales.
Réalité.
Voilà. Film, cinquième film de Quentin Dupieux.
Ouais, 2014. Avec Jonathan Lambert qui revient après Steak, avec Élodie Bouchez.
Et surtout avec
Eric Wareheim, mais surtout effectivement avec potentiellement une de nos idoles à tous les deux.
Carrément.
Carrément, ouais.
Carrément, ouais. Alain Chabat.
Monsieur Alain Chabat.
Ouais. Grand homme, au moins 1m90.
Ouais, pas loin de ça. Du coup, réalité, de quoi ça parle?
Du coup, réalité, c'est Alain Chabat sous le rôle de Jason, qui est cadreur pour une émission de cuisine et qui veut réaliser son film. Et qui se fait du coup produire par Jonathan Lambert, Bob, qui...
Je rigole déjà.
Ouais, mais franchement, enfin, je vais finir le pitch, mais du coup, il veut réaliser ce film-là, le pitch du film de Alain Chabat, Jason, du coup, encore une petite mise en abîme. C'est l'histoire de télé tueuse. C'est plus des pneus, du coup, c'est les télés cette fois-ci, qui tuent le spectateur grâce à des ondes. Le film, d'ailleurs, de Jason s'appelle Waves, comme un micro-ondes, Microwaves. Et c'est comme ça qu'il tuerait ses spectateurs, en fait.
Excuse-moi, tu es bilingue, non?
Je suis bilingue de profession, oui, de père en fils. Et du coup, il vient au bureau de Jonathan Lambert pour faire produire le film. Il lui explique le pitch. Jonathan Lambert est absolument... en amour avec le film qu'il propose,
mais
il lui demande sous 48 heures de préciser le gémissement sous lequel les gens mourraient, en fait. Du coup, il lui demande, ok, petit, t'as 48 heures pour me enregistrer un gémissement, et si je le trouve bon, ton gémissement, à barre de tourne, le film, on le rend. Sinon, non. Et du coup, on suit Alain Chabat pendant ces 48 heures-là qui se transformeront du coup en 72 heures par la suite.
Suite à moult péripéties
dans sa recherche de son gémissement parfait.
Gémissement parfait, d'ailleurs, Jonathan Lambert dit textuellement: je veux un Oscar pour ce gémissement.
Je veux un Oscar pour ce gémissement, exactement.
Qu'est-ce qu'on pense de réalité?
Moi j'adore. Je pense que c'est mon film préféré en termes de cinématographie de Quentin Dupieux. Et toi, je sais que c'est pas le cas. Tu l'aimes pas, hein, c'est ça? Non.
Alors, j'irai pas jusque-là. J'aime bien réalité. Après, on reste pour moi dans la période creuse de Dupieux. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment Steak et Rubber. Wrong, on descend. Wrong Cops, on y reste dans la fossée. Réalité, on commence à remonter. C'est-à-dire qu'on est encore dans la période creuse, mais on commence à avoir une petite remontée fantastique. Non, j'aime bien réalité, j'aime en fait surtout beaucoup Alain Chabat et Jonathan Lambert. C'est-à-dire que, alors le film, déjà, le film est sublime.
Il est beau.
Le film est vraiment sublime. Beau.
Les plans sont beaux, les endroits choisis sont super beaux.
Ils sont magnifiques et je trouve que, certainement, en tout cas pour moi, les premières scènes dans le bureau de Jonathan Lambert, en termes de...
Bureau incroyable. Hein. T'as bureau pas un bureau incroyable. Comme ça d'ailleurs pour la prochaine fois?
Désolé, on n'a pas encore les moyens chez Travelling. Mais toutes les scènes de dialogue, les dialogues sont exceptionnels.
Le premier dialogue entre Alain Chabat et Nathan Lambert, il est incroyable.
Pour moi, c'est une des meilleures scènes de dialogue du cinéma français de ces 10-15 dernières années.
Dans l'absurde, quand même. Parce qu'on reste dans du, on reste dans du Dupieux et ça reste très, 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 très absurde.
Ça reste très absurde, mais moi, c'est, moi entre guillemets, ça me fait bander. Alors moi, je préfère.
Oui, à moi aussi.
Après, si
moi
tu préfères les dialogues de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je suis désolé, mais c'est pas trop le délire.
Reste tranquille, par contre. On va se battre.
Mais je trouve l'alchimie entre Lambert et Chabat extraordinaire. Et même, je vais te dire un truc, je trouve l'alchimie entre Chabat et Elodie Bouchet, qui joue sa femme, incroyable. Non, d'ailleurs, vrai. Elodie Bouchet, qui est incroyable, d'ailleurs, et qui est, qu'on voit trop peu, à mon avis.
C'est vrai. Non, c'est vrai, on la croise trop peu dans le film, elle a un rôle important en plus.
Non, on la croise trop peu dans le cinéma, en général, Elodie Bouchet, je voulais dire.
Non, c'est vrai. Mais ouais, pour venir à Jonathan Lambert et Alain Chabat. La première scène, du coup, dans son bureau, où il lui explique le pitch. Cette scène-là, elle résume pour moi l'absurde de Dupieux et vraiment le fait de vouloir perdre l'auditoire, quoi. C'est, on est là.
Oui, bien sûr.
On veut vraiment foutre le bordel dans la tête des spectateurs, quoi. Et encore une fois, réalité, c'est le summum de la mise en abîme. Un mec dans un film qui veut faire un film, même dans le film, on parle de rêve, on parle de cauchemar, on ne sait pas trop où on en est. Et je trouve que c'est ça qui est bien, en fait, qu'on a perdu dans Long Cops, parce que ça, on l'a pas du tout dans Long Cops,
ouais.
On l'a dans Long, cela dit, et je trouve que vraiment, on peut faire un petit parallèle entre Long Cops, entre Long et réalité. Malgré le fait que j'ai moins aimé Long, je suis, contrairement à toi, bien ce que tu disais tout à l'heure du fait que Dupieux faisait trop Dupieux et forcé, je trouve que ce qu'on trouve dans réalité, avec cette envergure vraiment de labyrinthe, de un peu limite Inception, tu vois, genre on sait plus trop où on en est, dans le film, si on est dans la réalité, si on est dans le rêve, et ça on le retrouve aussi dans Long, et c'est ça que j'aime dans Long aussi, du coup, parenthèse fermée par rapport à Long vu qu'on l'a fini, mais ouais, réalité, moi j'adore ça. Enfin, on sait pas où on est dans le film, on sait pas si on est dans la réalité, on sait pas si on est dans la tête de Chabat, on sait pas si on est dans la tête d'un autre personnage, et c'est incroyable comment il le fait, en fait, parce que n'importe quelle personne se perd là-dedans, et lui, malgré tout, il arrive à s'y retrouver. Et au final, ça marche super bien.
Mais ça marche parce que...
C'est tellement assumé, en fait, que non, mais ça marche.
En fait, si tu veux, moi, je trouve que ça marche, heureusement qu'il y a Chabat. C'est que même, tu vois, j'adore Eric Judor, j'adore ce que fait Eric Judor, mais Chabat, si Chabat avait dit non, que c'était Eric Judor, ça aurait pas pu marcher.
Ça aurait marché beaucoup moins bien, c'est vrai.
Pour moi, ça marche parce que c'est Chabat.
Ouais, c'est
pour
vrai.
Moi, la réussite de réalité, c'est d'avoir réussi à amener un Chabat et... Parce que Chabat, il y a Mission Clopat, il y a tout ce qu'on connaît, c'est un acteur qui est très grand public, mais il ne faut pas oublier que Chabat, c'est quand même un mec écrit pour les nuls, des choses aussi extrêmement absurdes que La Cité de la Peur, c'est aujourd'hui...
C'est super absurde.
La Cité de la Peur aujourd'hui, c'est ça, c'est un film qui est devenu culte, on sort les répliques beaucoup de leur contexte,
ouais.
Mais dans le contexte du film, c'est un film qui est extrêmement absurde.
Ouais.
Par exemple, pour être très clair, je suis pas sûr qu'on ait un Quentin Dupieux à ce point-là si il a pas vu La Cité de la Peur 10 ans avant.
Ah, c'est vrai.
Mais.
C'est vrai.
Et pour moi, c'est aussi ça. Pour moi, c'est ça le grand tour de force de ce film, c'est le retour de Chabat à l'absurde. Parce que Chabat, même si je l'ai toujours adoré, c'est vrai que depuis quelques années, c'est un Chabat plutôt grand public. C'est Les Gamins avec Max Boublil, c'est Prête-moi ta main, c'est machin, c'est très bien, j'ai pas de problème avec ces films-là. C'est d'ailleurs plutôt des comédies réussies dans ce qu'elles essayent de faire. Mais c'est un retour de Chabat à l'absurde, et on voit que ce mec-là est un pur génie. Et que Dupieux, même si j'ai des réserves sur 2-3 films, pour moi, reste un génie dans son domaine, et que la rencontre entre les deux là... Donne une explosion dans les dialogues, dans les mimiques de Chabat, dans tout ce qu'il peut donner lui en tant qu'acteur, en tout cas, où on voit qu'il donne tout ce qu'il a à Dupieux.
Mmh.
Et je trouve vraiment que la performance de Chabat est assez extraordinaire de ce point de vue-là.
Je suis complètement d'accord avec toi. Là, t'as bien résumé, je trouve, la réalité en général, en fait. C'est que Chabat vraiment crée cette absurdité constante qu'il y a dans le film, mais fonctionne tellement bien avec l'univers de Dupieux que c'en est plaisant. Et par rapport à la communication, moi je m'en souviens avoir eu la com de réalité, et les gens l'ont un peu vu comme un peu à l'instar de Steak étant la nouvelle comédie avec Eric Ramsey. Là c'était réalité, le nouveau film de Alain Chabat. Moi, je m'en souviens avoir vu ça, en fait.
T'es sûr de ça?
Ah oui, j'ai vu beaucoup de personnes, pas forcément cinéphiles, hein, mais beaucoup de personnes. Ah, est-ce que t'as vu le nouveau film de Alain Chabat? Est-ce que t'as vu le nouveau film avec Alain Chabat?
Parce que j'ai plutôt tendance à, moi, voir l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend du Puyol sur un film, et en réalité, c'était il y a 4 ans, hein, c'était pas non plus il y a 1000 ans, et quand Quentin Dupieux avait déjà fait plein de trucs, et était déjà, son nom était déjà installé dans le cinéma, on a plutôt tendance à dire aujourd'hui le nouveau film de Quentin Dupieux avec, et pas le nouveau film de machin réalisé par Quentin Dupieux.
Moi je pense que dans la...
Avec Le Dain, on l'a dit, c'est le nouveau film de Quentin Dupieux avec, Jean Dujardin et Adèle Haenel.
Pas dans le commun, enfin en vrai dans le commun je trouve que Alain Chabat était vraiment plus dit que Quentin Dupieux, tu vois, genre dans la communication du film. Et en vrai c'est une bonne chose, parce que contrairement à Steck, encore une fois en restant dans le contexte d'une personne qui n'est pas forcément cinéphile, ça marchait bien parce que le film avait été bien reçu, réalité. Et il est resté dans du Dupieux, il est resté dans quelque chose de vraiment absurde, et encore une fois Chabat a rendu la chose incroyable, quoi.
Ouais, comme beaucoup de choses avec Chabat. Je suis pas sûr que... Enfin, il y a beaucoup de films dans lesquels il n'a été qu'acteur qui sont devenus des bons films de par la qualité de comédien de Chabat et qui, je pense, revoit aussi les scénarios et va pas jouer n'importe quoi. Et potentiellement s'écrit des dialogues et des scènes. Et enfin, beaucoup d'amour pour Alain Chabat, apparemment, ce soir.
Ouais, bah oui, il le mérite de toute façon.
Oui, clairement.
D'autres choses à dire du coup sur réalité? Enfin, à part aller voir le film, parce que franchement,
c'est... Ouais, voyez le film, juste pour les échanges entre Chabat et Jonathan Lambert.
Ouais. Après, c'est pas facile, hein. Enfin, on s'y perd vite dans le film.
Oui, mais comme dans tous les films de Dupieux au final.
À part Wrong Cops.
À part Wrong Cops, ouais, j'aurais aimé pas m'y perdre du tout.
En vrai aussi, on s'y perd pas trop dans Steak. C'est plus concret. Steak.
Je suis pas d'accord, moi, je trouve Steak vraiment pas facile d'accès.
Mais Steak, c'est malaisant, plus concret, tu vois.
Ouais, mais je trouve pas Steak si facile d'accès que ça, moi.
Non, à la première lecture, encore une fois. Mais quand tu commences à poncer un peu le truc, tu comprends, tu vois, ce qui se passe.
Oui, mais faut avoir envie de poncer Steak après l'avoir vu une fois.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Et c'est en ça que j'estime le film pas si accessible que ça. Et c'est pour ça que Steak s'est fait autant cracher dessus par les gens.
Ouais, mais clairement, Steak, il passe sur TF1.
Non.
Si, Steak il passe sur TF1. En réalité, il passe pas sur TF1.
Je suis pas sûr que Steak il va sur TF1.
Si. Steak il passe sur TF1, mais sous le mauvais genre, tu vois. Steak il passe sur TF1, mais les producteurs de TF1, ils ont pas compris, tu vois, pourquoi Steak
il passe sur TF1. Moi je suis pas d'accord, moi je pense que la tour en palace infernale et seul tout il passe sur TF1. Je pense que jamais Steak il passe sur TF1.
Je suis assez sûr qu'il soit passé sur TF1.
On vérifiera ça et on mettra les résultats de ce sondage dans la description.
Carrément.
Du coup, Quentin Dupieux, après réalité, il reste. Sur la langue française, cette fois-ci, c'est un retour total en France.
Sur une production franco-belge.
Une production franco-belge. Peut-être que son acteur principal y a quelque chose.
Sûrement.
On passe à Au Poste.
Non, parce que je vais faire une bonne annonce, je te rappelle. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on joue?
C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux.
C'est qui?
Je sais pas.
C'est le réalisateur, j'imagine?
Je pense.
Ça parle de quoi?
C'est un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner.
Il y a un meurtre.
Ouais.
Le titre du film?
Au Poste.
Donc ça, c'était un extrait de la bande-annonce de Au Poste, hein, c'est pour ça?
C'est pour ça,
ouais. Ouais, c'est pour ça
qu'on a mis ça, du coup.
Ouais, effectivement, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Au Poste, du coup, avec Benoît Poulvorde, Grégoire Ludig, Marc Fraise, Aurel San.
J'adore les fraises.
Moi aussi, j'adore les fraises, j'adore Aurel San aussi. Plus en tant qu'acteur qu'en tant que musicien, mais ça c'est autre chose, on aura ce débat plus
d'ailleurs,
tard.
D'ailleurs, Aurel San qu'on voit pas assez dans le film, je trouve.
Mais Aurel San qu'on
voit. En vrai, sa scène elle est vraiment très, très drôle.
Elle est très drôle.
Elle est vraiment très très drôle.
Donc au poste, ça parle d'un interrogatoire. Donc c'est Benoît Poulvorde qui est un inspecteur de police et il interroge Grégoire Ludig. Grégoire Ludig, pas le macho pour ceux qui savent pas. Et on arrive dans le film comme ça, on sait pas pourquoi il est là, on sait pas comment. L'interrogatoire, a déjà commencé quand on arrive dans le film. Déjà commencé même depuis longtemps, on croit ce que dit Grégoire Ludig, puisque une des premières choses qu'il dit, c'est qu'il a faim et qu'il a envie de manger, parce que ça fait trop longtemps qu'il est là.
Avant ça, quand même, la scène d'introduction du film, je sais pas si tu te souviens, mais
oui, c'est un chef d'orchestre en slip qui se fait courser par la police.
Voilà.
Alors qu'il est en train de diriger un orchestre qui fait de la musique classique dans la forêt, à l'entrée d'une forêt.
Et ce mec-là, du coup, il est emmené par les flics dans le poste dans lequel Grégoire Ludig est, interrogé.
Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pense d'Au Poste, mon cher Lenny?
Qu'est-ce qu'on pense d'Au Poste? Au Poste, franchement, c'est un peu, on reste sur du Quentin Dupieux dans le genre.
C'est compliqué de parler de poste. Hein.
C'est compliqué. On reste dans du Quentin Dupieux par rapport à l'absurdité, par rapport aux dialogues qui sont encore une fois très très bien construits et très très intéressants dans le, bah, dans l'absurde toujours. Parce que Benoît Poulvorde et Grégoire Ludig bah, se donnent se renvoient la balle assez habilement, on va dire.
Ouais. C'est deux acteurs de plutôt grande qualité, surtout quand il s'agit de comédie et de dialogue.
C'est sûr, c'est sûr. C'est un huis clos, du coup, on reste dans le poste de police pendant tout le film. Et c'est une mise en abîme aussi qui est faite parce que, au final, à la fin du film, on se rend compte, désolé pour les spoils, mais qu'en fait, c'est une pièce de théâtre. Et que c'est la seule chose absurde qui se passe dans le film. Si ce n'est les fois où on retrouve les personnages dans les souvenirs des autres. C'est-à-dire, je m'explique, Grégoire Ludig explique les différents faits qui se sont passés pour se défendre de son interrogation. Et pendant qu'il explique, du coup, on voit des flashbacks et on voit ce qui se passe. Et on voit Benoît Poulvorde, en fait, dans les flashbacks. Il est dedans, carrément. Il voit ce qui se passe. Et même eux, ils s'en rendent compte et disent « Ah, mais vous voyez ce que je vois là ? Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer ?» Enfin, ça, c'est une chose absurde qu'on voit, mais la plus grande absurdité de ce film, la plus grande mise en abîme, c'est le fait qu'à la fin, on se rend compte que ce soit une pièce de théâtre et que, ben, au final, tout le monde jouait, tout le monde était au courant. Il y a un mort, à un moment dans le commissariat, un flic qui meurt. Et à la fin, pendant qu'on se rend compte qu'on est dans la pièce de théâtre, il sort de son placard. Il retire l'équerre qu'il a planté dans le crâne et il dit ouais, enfin, en gros on voit que c'est un acteur.
Et parce que c'était du faux, c'est pour ça.
Et malgré tout, l'interrogatoire était vrai en fait. Parce qu'au final, Poulvorde remet les menottes à Grégoire Ludig et il lui dit on enchaîne demain sur l'interrogatoire.
Donc là, c'est très bien parce que du coup, on vient juste de raconter tout le film.
Mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur le film.
Even the end, j'ai envie de te dire.
Mais oui, mais on spoil ici, on s'en fout complètement, on est des glingos. Mais non, je sais pas, en vrai, est-ce que j'ai aimé le film ? Oui, mais sans plus.
En fait, c'est ça le problème avec Opa, c'est est-ce que j'ai aimé le film ? Oui. Est-ce que j'ai eu 20 000 trucs à dire dessus ? Non, parce que je suis pas sûr que ce soit le Dupieux le plus intéressant, que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes de plein de choses.
Le film est pas beau.
Le film est mis en scène de façon très pratique, très utilitaire, c'est très bien fait.
Ouais, mais c'est pas beau, je veux dire.
C'est pas rubber, c'est pas réalité, quoi. C'est très bien fait, mais très banal.
Il est bien, encore une fois, la meilleure force du film, c'est ses dialogues.
Oui, bien sûr. C'est ses dialogues et comment ils sont, entre guillemets, exécutés par Ludig et Poulvorde.
C'est ça.
Et Anaïs de Moustier aussi, que j'ai pas cité, qui est quand même une comédienne assez exceptionnelle.
Absolument.
Voilà, je sais pas quoi dire sur Opost.
En vrai, c'est mieux que Vlong. C'est mieux que Vlong Cops. C'est moins bien que Vlong, selon moi.
C'est mieux que Vlong.
Moins bien que Vlong. Parce que c'est moins Dupieux que Vlong.
Oh non.
Mais c'est beaucoup mieux que Vlong Cops.
Oh non, non, non.
Parce que c'est plus Dupieux que Vlong Cops.
Oh non, je peux pas laisser dire ça, là je m'inscris en faux.
Bah, pourquoi c'est moins bien que Vlong ? Pourquoi c'est mieux que Vlong, pardon ?
C'est mieux que Wrong, parce que je trouve les dialogues beaucoup plus intéressants que, désolé, mais je trouve les acteurs bien mieux, parce que Jack Plotnick, il est très sympa, mais déjà, il faut qu'il change de nom. toujours sympa. non, mais enfin, il est très sympa, mais c'est pas non plus... Enfin, tu vois la différence entre un mec qui s'appelle Jack Plotnick et Benoît Poulvorde, je suis désolé, mais... Enfin, c'est son terme... Mais que ce soit en terme... Alors oui, c'est moins absurde. Peut-être.
C'est beaucoup moins absurde.
Oui, c'est sûr que c'est moins absurde que Wrong. Et encore, est-ce que le twist final qui est dans une double absurdité, tu peux dire, est-ce que rien que ça, c'est pas.
C'est pas plus que Wrong.
Si à l'échelle de l'absurdité, ça remonte pas sur l'échelle au niveau de Wrong. Enfin, moi, je sais pas, au final, on s'en fout de qui est le plus absurde ou pas, mais je sais pas, je trouve le film plus intéressant. Puisque Quentin Dupieux fait des comédies, je trouve le film plus drôle. Je trouve le film mieux construit.
C'est vrai qu'il est plus drôle.
Je trouve le film mieux joué. Je déteste pas Wrong, mais je trouve Opost beaucoup mieux.
Moi, j'ai préféré Wrong quand même parce que quand je regarde, par rapport au fait que je regarde un Quentin Dupieux, je veux être perdu et j'ai été beaucoup plus perdu dans Wrong que dans Opost.
Moi, j'y ai beaucoup plus trouvé mon compte. Et ben voilà.
Non, mais c'est bien. Il en faut pour tous. De toute façon, on est souvent d'accord. Là-dessus, on n'est pas trop d'accord, mais c'est pas très grave parce que c'est pas non plus une grosse bagarre. Mais non, Au Poste quand même reste un bon petit film huis clos sur lequel les deux protagonistes principaux se renvoient la balle très très bien. Les dialogues sont parfaits. On a beaucoup beaucoup de choses absurdes qui se passent dans le film. La scène de l'huître est assez drôle.
Oui.
En gros, il mange une huître, il sait pas la manger, il la croque. Super. Mais non, enfin en soi, c'est
la condescendance du super.
Super. Mais, non, en vrai, il y a pas grand chose à dire sur Au Poste.
Non. Effectivement, on n'est pas d'accord sur Au Poste, mais on va être encore moins d'accord sur le prochain. Et ouais. Donc du coup, on enchaîne avec le dernier film abordé dans ce podcast, le dernier film en date de Quentin Dupieux.
Ouais, cool le pantalon.
Jusqu'où là ?
T'es sûr ?
T'as bien regardé là ?
Bah oui.
Ouais.
Le Dain.
Le Dain, dernier film de Quentin Dupieux, ouais. Du coup. Qui, cette fois-ci, il a pris beaucoup, beaucoup de stars hein, dans le casting de. Enfin, de stars.
Il y en a deux,
j'aime
hein.
J'aime pas ce mot star. Non, mais je veux dire, dans le casting général de Quentin Dupieux, on ouais. Trouve beaucoup d'acteurs vraiment qui sont en avant dans la scène française.
Là, on est quand même sur Jean Dujardin et Adèle Haenel.
Ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est pas.
Deux très gros noms.
N'importe quoi.
Alors, le pitch du Dain, c'est. C'est Jean Dujardin qui achète un blouson en Dain. Mmh. Et le blouson en Dain lui parle. Voilà, c'est ça, à peu près, le film. Moi, je le dis tout de suite, et puis on va approfondir, évidemment, sur ce que dit le film et sur ce que raconte le film après. Moi, je le dis tout de suite, j'adore Le Dain. J'adore ce film. Je sais que t'es pas d'accord avec moi, je sais que tu détestes Le Dain.
Non, je déteste pas, c'est pas
mais
vrai.
Mais j'adore ce film. J'adore ce que fait Jean Dujardin, j'adore ce que fait le manteau, parce que je trouve que le manteau, il joue super bien.
C'est vrai qu'il joue bien le manteau.
Le manteau
il est super beau, d'ailleurs.
Non.
Non ?
Il est pas très, très beau, mais il joue super bien. Ouais, je sais pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai plutôt tendance à être client de l'absurde. J'aime Rubber de manière infinie.
Ça, on a pu le comprendre.
Mais qui est potentiellement un des films les plus absurdes de Dupieux. Et ce qui est bizarre, c'est que j'aime Le Dain parce qu'il l'est pas. En fait,
c'est vrai que Le Dain n'est pas du tout absurde.
En fait, Le Dain.
Il s'inscrit dans le réel.
En fait, si tu oublies le point de départ, c'est qu'il y a un blouson en Dain, le blouson en Dain parle à Jean Dujardin. Donc, du coup, il y a des dialogues Jean Dujardin, blouson en Dain. Si tu oublies ce point de départ-là, le film est en fait dans sa construction ultra linéaire, ultra simple.
Ouais, mais même avec ce point-là. Parce qu'en soi, en fait, Le Dain, c'est quoi ?
C'est une espèce de conscience.
Non, Le Dain, c'est quoi ? C'est un homme. Perdu dans sa vie, en fait.
Oui, mais c'est ça, c'est que Le Dain va représenter une sorte de conscience, une sorte de voix intérieure.
Ouais, parce que quand on le voit parler, on voit Dujardin parler en
bien
tant
sûr,
que Le Dain.
Bien sûr.
Et on voit lui-même, comme un schizophrène se parler à lui-même, en fait.
Oui.
Et en vrai, Le Dain, pour moi, de toute la filmographie de Quentin Dupieux, Le Dain, pour moi, de toute la filmographie de Quentin Dupieux, c'est le film le plus réel qu'il ait fait.
Oui, c'est
parce
ça.
Que,
oui,
parce qu'il
n'y
a rien d'absurde dans le film, en fait.
Donc ça, c'est clair et net.
C'est totalement plausible tout ce qui se passe. C'est totalement réel et c'est psychologique. C'est juste un film psychologique. Et c'est peut-être pour ça que moi, je l'ai moins aimé que toi, parce que moi, je m'attendais à rester quand même dans du Dupieux. On reste quand même dans du Dupieux. On reconnaît la patte de Dupieux parce que le sujet, comment il est traité, par rapport justement au fait que Le Dain lui parle et tout, enfin, ça reste absurde malgré tout. Mais c'est réel, et dans le sens... Et c'est pour ça qu'on reconnaît Dupieux. Et moi, du coup, ce que j'ai moins aimé, c'est que... Bah, déjà, le film, je l'ai regardé ce week-end, je l'ai regardé hier, et tu me l'as vendu comme... Enfin, tu m'as dit, texto, tu vas te fendre la poire dessus, et j'ai pas tant ri, il est pas très très drôle, en soi.
Je suis pas d'accord avec ça, moi je trouve le film vraiment super drôle.
Ok. Et autre chose, j'ai été victime... De comment dire
de mon lobbying
de mon non de en gros j'étais victime de moi-même en prenant le film comme un film avec Jean Dujardin et je m'attendais à du Jean Dujardin OSS 117
et en fait t'as fait la même erreur que les gens qui ont fait la com de steak
j'ai fait la même erreur que les gens qui ont vu steak et qui se sont dit j'aime pas steak.
Et donc du coup t'étais conscient de cette erreur là il y a 12 ans mais pas aujourd'hui.
C'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai accordé cette erreur que j'ai faite là en me disant je vais voir Jean Dujardin au 77 et je vais m'éclater la gueule par terre à rigoler et j'ai lié ça en fait à ce que tu m'as dit toi en fait, et à comment toi tu m'as vendu le film. Et c'est pour ça qu'en fait le Dain, quand je l'ai vu, j'ai été un peu surpris. Et c'est un très bon film, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus drôle déjà. Et j'ai pas ri dans le film du Dain. Le Dain, j'ai pas ri.
Alors, enfin, ouais. C'est bizarre, hein, parce que moi, c'est vrai, je me suis vraiment. J'ai ri à gorge déployée.
Oui, je sais, et c'est pour ça que.
J'ai ri, mais pas le petit rire de.
Non,
de...
mais tu m'as
dit. J'ai pas pouffé de rire comme parfois au cinéma, j'ai vraiment rigolé pour de vrai.
Tu m'as dit ça, et c'est entre autres la raison pourquoi. Parce que moi, quand tu m'as dit. Je sais qu'on a à peu près le même humour sur beaucoup de choses, et je sais que t'aimes beaucoup les OSS 117. Non, t'aimes pas?
Non, j'aime pas.
Non, t'aimes pas? Ah, j'aurais peut-être dû penser à ça. Mais je sais qu'on a pas mal d'humour commun, et je me suis dit justement qu'en fait, Jean Dujardin, on allait le retrouver comme l'humour qu'on aimait nous deux, et en fait, c'est pas le cas.
Mais c'est moi, c'est peut-être ça qui m'a peut-être un peu plus fait aimer le film encore, c'est que moi, je suis pas spécialement fan de Dujardin, moi, au départ. Et justement, là, Dujardin fait pas Dujardin, là, Dujardin.
Ouais,
en vrai, Dujardin fait plutôt ce que ferait Duchabat, tu vois.
Ouais, carrément, pour le carrément. Coup. Bah, je me suis piégé moi-même, en fait, parce que je m'attendais à du Dujardin qui fait du Dujardin dans OSS 117, sauf que c'est pas forcément du Dujardin, quoi.
Par contre, j'adore Adèle Haenel dans le film, puis j'adore Adèle Haenel tout court. On enregistre le dimanche 17 novembre, je fais juste une petite parenthèse avec tout ce qui se passe avec la sortie du nouveau film de Roman Polanski et de tout ce qu'on entend en ce moment. Juste une petite parenthèse pour dire que j'aime beaucoup Adèle Haenel et qu'on a besoin de plus de gens comme elle dans le monde du cinéma français, dans le monde du cinéma tout court et dans le monde tout court. Parenthèse fermée sur Adèle Haenel et sur l'actualité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Le Dain, à part que c'est un excellent film et que tu n'as aucun goût si tu ne l'as pas aimé?
Non mais moi je l'ai aimé, c'est un film qui est super beau, c'est un film introspection d'un personnage encore une fois qui est vachement psychologique, on retrouve des choses qu'on a pu retrouver dans Steak, dans Steak et dans des autres films d'ailleurs de Dupieux. Tous les films de Dupieux, ils ont un thème moral et un postulat de vraiment rechercher à rentrer dans la tête d'un personnage. Et de savoir son mal-être, de savoir pourquoi il va pas bien, de savoir pourquoi il. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et. En vrai, Le Dain, je pense que c'est celui qui le fait le mieux. Parce qu'il est réel et parce que. On a quitté un peu les artifices, on a quitté un peu l'absurdité de ce qui se passe dans réalité, de ce qui se passe dans Long, avec les choses comme elles se passent, la chronologie qui est un peu. Bizarre, avec les scènes bizarres de gens qui meurent et qui reviennent 15 minutes après. On a quitté tous ces gimmicks un peu artificiels pour rentrer vraiment dans un film beaucoup plus réel et dépeindre vraiment le caractère de Jean Dujardin et de ce Dain, du coup, de cette veste. Et c'est bien fait en soi, mais du coup, c'est un peu moins du Dupieux, selon moi.
Je suis pas complètement d'accord, comme je l'ai dit juste avant, mais on peut agree to disagree,
ouais, sur totalement, le totalement.
Et du coup, ça fait potentiellement 4h30 là qu'on discute, ouais, des contenus du feu. Donc on va peut-être pouvoir conclure.
Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de la filmographie du Dupieux?
Globalement, en vrai, à part Wrong et Wrong Cops, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour Quentin Dupieux, que j'aime beaucoup. Moi, mon film, alors j'allais dire mon film préféré, c'est un peu compliqué, ça veut dire que j'ai un avis sentimental et un avis de cinéphile.
Faut les diviser comme t'as fait tout à l'heure en disant un film vraiment du cœur et un film un peu plus cinéma.
Ah, c'est ça, je pense que en tant que cinéphile, mon Dupieux préféré, je crois que ça s'est entendu pendant le podcast, c'est Rubber, que j'aime énormément. Mais sentimentalement, j'ai un affect un peu particulier et beaucoup d'attachement pour Steak, que j'aime profondément. Voilà.
On en a un en commun, du coup, c'est Steak. Pareil pour moi, le film, c'est le film qui m'a fait découvrir Quentin Dupieux, du coup, c'est déjà pas mal. C'est un film qui, Eric et Ramzy, pour moi, c'est des génies en termes de comédie française, et jusqu'à aujourd'hui, ils me font rire. Dans H, ils m'ont fait pleurer de rire. Dans tout ce qu'ils ont fait, ils me font rire, en fait. Et Dupieux, du coup, les a magistralement mis en scène dans Steak. Du coup, ça va être mon film préféré en termes vraiment d'amour, on va dire. Et en termes plutôt de cinématographie, ça va être réalité. pour moi, parce que Alain Chabat est extraordinaire, parce que le film est magnifique, parce qu'on trouve vraiment toutes les gimmicks et les choses un peu gimmicks. C'est pas gimmick, parce que gimmick, c'est, ça peut être mal vu,
ouais.
Mais toutes les, tous les outils qu'utilise Dupieux, et je trouve que c'est le film dans lequel il utilise le mieux. Et qui nous perd tout ce qu'il crée vraiment avec ce labyrinthe, encore une fois, dans réalité, c'est incroyable, je trouve. Et ouais, pour moi, ça va être ces deux films-là. Après, dans la filmographie entière de Dupieux, tout est bon, vraiment, en vrai. Hein. Enfin, à part Von Cops, qui est un peu en dessous. Hein, bon, enfin, vraiment, Von Cops, on l'aime pas trop, mais tout est bon. En plus, quand on voit d'où il vient, Dupieux, c'est un mec qui faisait de la musique à la base, qui s'est lancé dans un film avec un truc vachement expérimental dans le film. Ça se voit que c'est un mec qui a la bougeotte, qui s'ennuie vachement vite et qui essaie de vraiment recréer, et on le ressent aussi dans ses personnages. On peut un peu voir du Dupieux dans Alain Chabat dans Réalité, on peut un peu voir du Dupieux dans Le Dain, sûrement par rapport à des choses qui sont passées dans sa vie et tout. Mais ouais, enfin, en vrai, la filmographie autour de Dupieux, vraiment, c'est quelque chose à voir. C'est un bon patrimoine, enfin, c'est une personne qui fait du bien dans le patrimoine du cinéma français. Et c'est cool.
Et bah, je pense que c'est une parfaite conclusion. Beaucoup d'amour pour Quentin Dupieux, de toute façon. Donc merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à Damien pour la miniature.
Avec Flatéric.
Avec Flatéric sur la miniature. Merci à Alain pour la musique du générique. Merci à toi, Lenny, d'avoir été avec moi sur ces deux premières émissions de Travelling.
Bah, merci à toi de m'avoir invité. Quand même.
merci à tous d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.
Un petit teasing d'ailleurs sur l'émission prochaine.
Un petit teasing. Alors, dans l'émission numéro 1, on tease en parlant d'Inception, du coup, qu'on ne fera pas. Donc, parce que petite parenthèse pour ceux qui écoutent encore, on a une petite chose à vous dire. Effectivement, dans l'émission numéro 1, on tease une émission sur Inception qui a été enregistrée.
Mais on l'a perdu, hein.
Et en fait, le problème, c'est qu'on l'a pas perdu juste avant, c'est qu'on l'a enregistré, on l'a réécouté, puis on s'est dit, en vrai, on dit un peu de la merde, donc on a décidé de pas le sortir. Ouais.
Et du coup, on a décidé de faire sur Dupieux.
Et du coup,
beaucoup mieux.
Ce qui est beaucoup mieux, de faire un podcast sur Quentin Dupieux. Donc, si tout se passe bien, la prochaine émission sera sur une trilogie.
Mmh.
Une trilogie dont le premier film a potentiellement eu un remake en 2011, qu'on abordera peut-être en disant qu'il est pas si mal que ça.
Mmh.
En fait, c'est Evil Dead. Allez, au revoir à tous, bisous.